C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus ou moins calme.
You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous. Qui nous rejoignez sur O2 Radio en ce mardi 20 janvier 2026 avec un petit peu de retard. Et bienvenue, et oui, il devrait être 14h pile, mais il est 14h06.
Il a été 14h déjà. Été 14h un jour.
À un moment donné, comme hier et comme demain, sans doute, d'ailleurs.
Oui.
Nous voici à la mi-janvier et tout va bien. Le temps est brumeux, pluvieux et ensoleillé. Avec moi en studio, celui qui dompte le brouillard. Bonjour Jean-Jacques.
Oui, bonjour. Je cherchais votre nom. Anne-Lise, oui, bonjour.
Vous savez plus qui je suis.
Je suis un peu brumeux parce que c'est comme le temps, quoi, en fait.
Oui. Mais avec nous aussi, celui qui met à genoux la pluie. Bonjour Patrick.
Alors, bonjour, je me sens comme une grenouille. Je monte sur mon escalier. Comment allez-vous, Jeanne-Lise ?
Ça va bien.
Et vous, Jean-Jacques ?
Ça va très bien. Je viens m'apprendre que la pluie a des genoux.
Oui, c'est normal.
Oui,
mettre la pluie à genoux, c'est quand même formidable.
Tout à fait.
Voilà.
Allez, pour l'émission numéro 14 de Cinéscence, c'est une toile blanche qui va être garnie par une invitée qui va nous livrer ses préférences filmiques et certains films qui l'ont émue, interpellée, fait rire, fait pleurer. Bref, une petite partie de son panthéon cinématographique. Allez, petite jingle d'accueil.
Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Oh, ça valait le détour!
Et cet invité, Patrick, je vous laisse la présenter.
Eh bien, avec grand plaisir. Alors, puisque vous ne la voyez pas, je vais vous la présenter. Elle est blonde, elle est mince, elle a les yeux bleus, elle a un sourire absolument radieux.
Vous parlez de moi ou...
Non, je ne parle pas de vous, Jean-Jacques.
Ouais, il parle de en fait.
Je parle de Mathilde qui est notre invitée aujourd'hui. Mathilde qui, au demeurant, est une amie à moi et qui, en plus, est une très très bonne comédienne que je vous recommande dans certains films que j'ai réalisés et dans le prochain que je vais réaliser aussi. Il n'y a pas de raison, c'est de l'auto-promo. Donc voilà, bonjour à Mathilde.
Bonjour Mathilde.
Donc voilà.
C'est tout ce que vous avez
dit.
C'est tout ce
que j'ai à dire. Très bien.
Ça suffit, on a du temps à rattraper.
Oui, c'est vrai. Mathilde, on vous a demandé l'impossible.
Ah oui. Comment ça, l'impossible?
Celui de choisir dans votre filmographie personnelle trois films, seulement trois films.
Mais impossible n'est pas français.
Vous allez nous le prouver peut-être. Mais des films qui vous sont importants pour diverses raisons, que vous allez nous exposer certainement. Et le premier de ces films, je vous laisse en donner le titre.
Oui. Alors, il s'agit... déjà, bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutaient. Le premier film, effectivement, c'est Danse avec les loups.
C'est comment ?
Pardon ?
En anglais, ça donne quoi ?
Bonne question, en anglais.
Dance with Wolves.
Je pense tout simplement que...
Anne-Lise est extraordinaire.
Voilà. Et du coup, la sélection était très dure, mais je me suis arrêtée là-dessus parce que c'est un grand classique avec 7 Oscars, 3 Golden Globes, un ours d'argent et quantité d'autres récompenses. Et c'est un film inspiré du livre de Michael Blake et réalisé par Kevin Costner, qui interprète également le héros principal, John Dunbar. C'est un personnage éponyme du film, puisque Danse avec les loups, figurez-vous que c'est le prénom du héros, derrière lequel se cache une aventure incroyable au cours de la guerre de Sécession. C'est l'histoire d'un officier nordiste en 1893 qui choisit de s'installer dans un fort militaire isolé dans la brousse. Et ce fort représente beaucoup. Un refuge pour le héros qui a l'air égaré dans sa vie et qui se rend dans un endroit aussi perdu que lui. Mais paradoxalement, c'est aussi le lieu de départ d'une incroyable aventure sociale, puisque ce fort constitue un danger, car il marque la fameuse frontière avec le territoire des Indiens, synonyme aussi de terres encore inexplorées par les Blancs.
Et l'inconnu, oui.
Et c'est aussi le territoire d'un loup solitaire. Et ce fort va devenir un lieu de rendez-vous avec les Sioux et ce loup qui finit par chercher sa compagnie. Et oui, c'est exactement ce que va faire le personnage principal aussi, puisque ce film montre comment la solitude d'un individu va petit à petit le mener à apprivoiser un environnement qui peut sembler hostile au départ et auquel le personnage va finir par s'attacher avec la prise de conscience que toute sa vie il a combattu dans le mauvais camp.
Vous avez dit que son prénom, c'était Danse avec les loups, c'est ça?
Oui,
c'est
ça.
C'est un prénom indien, ça.
C'est son prénom indien, effectivement.
Il va lui être donné plus tard, alors.
Exactement. D'accord. Mais qui correspond tout à fait à la thématique du film.
Oui.
Puisque la thématique du film, c'est la liberté et l'acceptation de l'autre. D'accord. Et dans l'une de mes scènes préférées... On lui donne ce prénom-là.
D'accord. Justement, Anne-Lise, vous aviez une question par rapport à ça.
Oui, vous disiez que c'était un hymne un peu à la liberté et puis à l'acceptation de l'autre. Et quelle est pour vous la scène qui représente le mieux ces deux points de vue?
Ah bah justement, c'est la scène-là à laquelle je pense. En fait, c'est une scène où le héros se rend à cheval chez les Sioux. Et il y a Chaussette, le loup, qui le suit. Et le héros descend de son cheval, lui court après pour le faire fuir afin de le protéger des Amérindiens. Sauf que ça prend la tournure d'un jeu avec le loup qui ne s'en va pas vraiment et qui l'attend, et le héros qui lui crie amusé « Méchant loup, méchant loup !» Enfin, c'est une scène très amusante et très parlante pour le film parce qu'elle résume bien finalement la relation que Dunbar entretient avec ses nouveaux voisins, considérés par la société comme des loups, comme des menaces, et qui sont pourtant synonymes de liberté et de lien avec la nature. Tout est dit dans le prénom « Danse avec les loups » en fait, et c'est très à propos pour le titre du film, puisque symboliquement le héros flirte et danse avec ses menaces.
Tout à fait. Alors moi, je vous propose d'écouter un extrait du film, justement.
Ah oui. Oui,
mais c'est pas du tout la scène dont vous venez de parler. C'est la scène où Dunbar se rend au Fort Hays pour être affecté à sa demande à un avant-poste en territoire indien,
ah oui,
ce que
oui,
vous avez dit à l'instant. Et c'est le major Funbrook qui le reçoit et qui lui signe son ordre de mission.
C'est incroyable.
Mais alors, le problème, c'est qu'on sent chez le major les prémices d'une démence, vous voyez, qui le conduiront à se suicider peu après.
Oh, c'est joyeux.
Vous êtes John J. Dunbar, lieutenant John J. Dunbar.
À vos ordres.
À vos ordres. Un tueur d'Indien.
Je vous demande pardon.
Je vois ici que vous êtes affecté sur la frontière. Il n'y a que des Indiens là-bas. Et de là en déduire que vous êtes un tueur d'Indien. Ça vous étonne qu'un major ne soit pas un imbécile?
Non, major.
Non, major. Je vois qu'on vous a remis une décoration.
Oui, mon commandant.
Et on vous a placé sous mon commandement?
Si je suis affecté ici, c'est sur ma requête. J'ai toujours voulu voir la frontière.
Vous voulez voir la frontière?
C'est ça. Avant qu'elle ait disparu.
Vous vous présenterez au capitaine Cargill dans le poste le plus avancé aux marches du royaume, le Fort Sedgwick. Mon sceau personnel sera votre sauvegarde à travers les embûches de cette vaste contrée sauvage et hostile.
Je me demandais...
Oui?
Comment faire pour gagner mon affectation?
Vous croyez que je l'ignore?
Pas du tout.
Il croit que je l'ignore.
Mais non, c'est moi qui l'ignore.
Tenez votre langue. J'aime à me conduire généreusement et je vais donc répondre. Vous voyez ce paysan là dehors? Il se fait appeler Timmons. Il va justement à Fort Sedgwick cet après-midi. Vous ferez route avec lui. Il connaît le chemin. Vous pouvez disposer.
Oui, mais finalement, le contact avec les Indiens doit être moins désagréable que le contact,
avec son major.
C'est vrai que c'est assez ça. C'est d'ailleurs,
c'est assez froid. Hein.
Oui, et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans le film. C'est-à-dire qu'il a un contact plus humain et plus chaleureux avec les Sioux et avec les animaux plutôt qu'avec les Blancs.
Oui. Donc les Sioux et les animaux, c'est-à-dire que les Sioux ne sont pas des animaux quand même, on va dire.
Ah bah non, pas du tout.
On n'est pas chez Trump ici. Hein.
Non, non.
D'accord. Moi je dis ça, je veux savoir une chose.
Ok, oui, merci.
Je vous
Patrick.
En prie, ça fait plaisir.
D'ailleurs, il faut signaler quand même que les Sioux en question sont de vrais Sioux.
Ce sont des vrais Sioux, absolument.
Oui.
Ce sont des vrais Sioux.
Et qui emploient un langage amérindien. Quoi.
Oui.
Alors, le propos du film est une sorte de retour à la nature pour s'extraire d'une civilisation qui ne convient plus au lieutenant Dunbar. Il a été reproché à Kevin Costner de se faire le chantre de l'évangélisation.
De les quoi?
L'évangélisation. Je vous le recommande, celui-là. Du peuple Sioux. Pensez-vous que ce soit Dunbar qui apporte des valeurs occidentales aux Sioux, ou plutôt les Sioux qui apportent à Dunbar une certaine vision de la vie tournée vers l'essentiel.
Ah bah, ce sont les Sioux qui apportent à Dunbar une vision tournée vers l'essentiel. Prouvez-le ! Eh ben, je le prouve, parce que la vie nomade de cette tribu s'organise au rythme de la nature et des animaux pour chasser. Et ils ont aussi un esprit de communauté très fort. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'ai pas souvenir que Kevin Costner montre le héros comme le représentant d'une quelconque évangélisation envers eux.
Non, c'est une critique qui lui a été faite à l'époque de la sortie
des Sioux. C'est justement une critique que... Ouais, c'est ça, je comprends pas. Parce qu'au contraire, le héros, il s'intègre complètement à la tribu, il apprend leur langage, leurs coutumes, leurs usages, et il épouse même une femme blanche adoptée par le chef du clan. Alors,
ah, mais il épouse une femme blanche, il n'épouse pas une indienne.
Oui, bon après, effectivement...
Il ne faut pas non plus trop en demander aux Américains, ça reste quand même...
Ça reste un Américain.
Voilà. Ouais, voilà. Mais bon, dans certains points de vue, il choisit son peuple, et puis bon, je pense que vu que le héros est seul avec toute une tribu guerrière indienne, à moins d'être stupide et de vouloir finir scalpé, il vaudrait mieux pour lui d'éviter de les convertir, quoi. Voilà.
Moi, j'avoue que j'ai pas vu le film, mais est-ce qu'il n'y a pas un aspect quelque peu contemplatif dans ce film ?
Ah si, très.
Parce que j'ai vu qu'il était très lent.
Oui. Il dure 3 heures. Hein, 3 heures.
Même la version qui a été revisitée en 92, 2 ans après, dure 4 heures, elle.
Ouais. En fait, c'est assez marrant parce que c'est quand même un film où c'est un long film, mais les scènes sont bien rythmées et du coup, on ne s'ennuie pas, en fait.
Voilà.
Et les plans montrent quand même beaucoup la brousse et puis les paysages, les troupeaux de bisons.
Enfin, les bisons, oui.
Voilà, il y a un côté vraiment paysage qu'on retrouve beaucoup dans ce film. Et du coup, il y a de la contemplation, oui. Mais c'est bien rythmé, donc il n'y a pas d'ennui. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, en tout cas.
C'est vrai qu'on va avoir souvent un vrai équilibre, pour le coup, entre les scènes d'action, les scènes de contemplation, il va montrer la vie du camp ou la vie de la nature. Oui. Et vraiment, c'est un équilibre qu'il a réussi dans ce film-là, en tout cas.
Ouais.
Peau de bison, d'ailleurs, c'est une des scènes assez incroyables.
Ah, oui,
il a fait appel à vraiment des bisons.
Alors, j'ai pas compté le nombre de bisons qu'il y avait dans le film. Par 732. Contre, j'ai noté le nombre de millions de recettes qu'il a rapportées.
Oui.
424 millions.
Ça fait beaucoup quand même.
Pour un budget initial de 19 millions.
Ah oui, joli culbute.
Donc c'est pas mal. Et puis vous l'avez dit, Mathilde, 7 Oscars quand même.
Oui, ouais, c'est beaucoup.
Et notamment l'Oscar de la musique. Ouais. Et c'est le compositeur John Barry à qui l'on doit notamment les musiques de certains James Bond, mais aussi celles d'Out of Africa.
Ben oui.
Et du générique, l'on sait moins, de la série Amicalement Votre. Donc il a reçu l'Oscar de la meilleure musique pour Danse avec les loups, dont voici le très célèbre John Dunbar Theme. Oui. Annelise, vous êtes là?
Oui, tout à fait.
Allô? Vous êtes descendu de votre cheval?
Oui, oui. Ben, ça me fait voyager ce film-là, oui, c'est pour ça.
Tout à fait. Oui.
Manon
n'est pas là. Hein.
Excusez-moi, c'est à cause de Jean-Jacques, tout ça.
Aucun problème.
Y a-t-il un réalisateur ou une réalisatrice qui domine votre filmographie et pourquoi?
C'est une très bonne question, j'avoue. Ouais. J'aime bien, alors, rien à voir avec le registre américain, mais j'aime beaucoup les films réalisés par Daniel Auteuil. Ah, je trouve que c'est d'une poésie et particulièrement les films adaptés des livres de Pagnol. Oui. Ouais. Moi, j'ai vu Marius, Fanny, et puis La fille du Puisatier. Je trouve qu'à chaque fois, Daniel Auteuil, il est très fort pour retranscrire fidèlement.
Il sait de quoi il parle, en plus. Il est le régional de l'étape. En
fait. Oui.
Cette poésie et ce côté très, très doux, d'ailleurs, je trouve qu'il ressort aussi en fait, de sa.
Oui, et puis il y a le côté très proche de la nature aussi. Ouais. Alors, bon, c'est la garrigue provençale, hein, mais bon, alors, c'est quand même des gens qui évoluent dans ce cadre et c'est particulier. Moi, c'est j'aime beaucoup.
C'est la Provence de Pagnol.
Exactement.
Mais ce n'est pas celle de Giono, par contre.
Hein. Ah non.
C'est bien différente. Quoi. Bon, Mathilde, je vous laisse le soin de nous dire quel a été votre choix pour le deuxième film.
Oui, alors là, il s'agit du Dernier Samouraï. Et oui, c'est réalisé par Edward Zwick. Magnifique imitation. Avec plusieurs nominations aux Oscars et Golden Globes. Oui. Bon, c'est sorti quand Le Seigneur des Anneaux 3 est sorti, donc Le Seigneur des Anneaux a un peu raflé les trois quarts des récompenses.
Et c'est normal.
Et c'est normal parce que c'est ma vie. Mais bon, c'est pas le sujet. Ici, nous suivons l'histoire du capitaine américain Nathan Algren du 7e régiment de cavalerie, interprété par Tom Cruise. C'est un personnage qui a vécu les guerres indiennes et il est particulièrement traumatisé par la bataille sanglante de Wachita, à un village indien, et ça s'est vraiment passé d'ailleurs. Et la vie le mène au Japon, où monsieur Omuro, un détenteur de chemin de fer et conseiller de l'empereur Meiji, l'engage à se débarrasser d'un autre conseiller de l'empereur, Katsumoto. Interprété par l'acteur japonais Ken Watanabe, si ça vous dit quelque chose.
Oui, ça me disait bien.
Il joue dans une version des Sept Mercenaires. Et ce Katsumoto, c'est un grand samouraï qui désapprouve la modernisation occidentale du Japon et qui mène la rébellion pour préserver la digne culture identitaire de son pays. Et lors d'une bataille, le capitaine Algren se fait capturer par le clan de Katsumoto. Il est emmené dans un village reculé dans les montagnes où il va découvrir la culture et les valeurs que le chef Katsumoto cherche à préserver dans sa lutte contre l'occidentalisation du Japon. Et bien sûr, le héros va changer de camp. Alors sachez que ce film entretient une perception occidentale très fantasmée des samouraïs, car il met beaucoup l'accent sur le Bushido, qui signifie la voie du guerrier. C'est en fait un code chevaleresque plein de valeurs morales et spirituelles traitées de manière sublime dans ce film, mais ça ne reflète pas la réalité historique. Et malgré cette liberté de réalisation, cette production fait rêver d'un idéal guerrier et questionne aussi sur le prix à payer pour préserver une culture nationale identitaire et des valeurs morales.
J'ai à signaler quand même que Nathan Algren, le personnage, a été inspiré par un officier.
Oui, officier français. En effet, il s'agit de Jules Brunet, qui est en fait resté aux côtés d'un shogun après sa défaite. Et par la suite, cet officier est devenu il est devenu chef d'artillerie dans la République des Eaux, qui était formée par le shogunat. Et en fait, après une ultime défaite, cet officier aurait dû être condamné à mort par le Japon. Et en fait, le gouvernement français a manœuvré pour lui sauver la mise. Et voilà.
Bon, donc personnage à moitié fictif, n'est-ce pas, Annelise?
Oui. D'ailleurs, vous parliez justement de ce côté historique, de ces libertés qu'on peut prendre par rapport à la réalité. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a certains historiens et critiques qui ont souligné justement cette prise de liberté par rapport à la réalité et le fait que ça occultait un petit peu au niveau des samouraïs, le fait que certains avaient soutenu la modernisation du Japon. Mm-hmm. Mais pour vous, est-ce qu'un film qui retrace une période historique d'un pays, en fait, devrait coller ou doit coller à la réalité? Ou est-ce qu'on doit le prendre, parce que c'est souvent une critique qui est faite, est-ce qu'on doit prendre une certaine liberté par rapport à ça?
Ouais, bah pour moi, je pense qu'on peut se permettre de prendre une forme de liberté. Après tout, on est dans le domaine de l'artistique, et donc pour moi, tout est permis. Il y a toujours un parti pris aussi. Hein. Ces réalisateurs préfèrent retranscrire aussi fidèlement que possible les faits historiques, avec un peu à la manière d'un documentaire. Et d'autres préfèrent mettre en avant d'autres aspects environnementaux, humains, etc. Mais pour moi, l'art, c'est la liberté de penser. Et c'est aussi aux spectateurs de se renseigner sur ce qui s'est vraiment passé ou non dans l'histoire, hein. Ça ne tient qu'à eux.
Ça tient, oui, et puis tant que c'est écrit que c'est inspiré d'une histoire vraie ou d'un fait historique, c'est vrai qu'on peut se permettre du coup certaines libertés.
Puis c'est ce qui s'appelle la licence poétique aussi.
Tout à fait.
On a le droit d'interpréter les choses,
oui.
On n'est pas obligé d'être à la lettre.
À ce propos, le film a été tourné en grande partie en Nouvelle-Zélande.
Oui, parce que c'était plus accessible que le Japon, il y avait moins de tremblements de terre. Voici une brève rencontre entre le capitaine Nathan Al Green, alias Tom Cruise, et le légendaire samouraï Katsumoto, interprété par celui dont vous avez parlé tout à l'heure,
oui.
Ancien général de l'armée nippone, conseiller et mentor de l'empereur, qui est hostile à l'occidentalisation du Japon et qu'un homme politique vient pousser au suicide sans succès.
La fleur parfaite est chose rare. On pourrait passer sa vie en chercher une, mais ce ne serait pas une vie gâchée.
Qui a envoyé ces hommes pour vous tuer?
J'écris un poème sur un rêve que je fais. Les yeux du tigre ressemblent aux miens, mais je viens de traverser une mer profonde et agitée.
C'était l'empereur Omura.
Si l'empereur souhaite ma mort, il lui suffit de demander.
Alors c'était Omura.
J'ai du mal à terminer le poème. Suggérez-moi un dernier vers.
Je ne suis pas écrivain.
Pourtant, vous avez écrit de nombreuses pages depuis votre arrivée ici.
Alors, Tom Cruise, bon...
On l'a bien connu quand même. Hein.
On le connaît bien.
Il a fait un an d'entraînement à raison de 7 heures par jour pour rentrer dans le rôle du personnage.
Ouais.
C'est qu'il a pris 12 kilos de muscles. C'est Tom Cruise. Alors, Tom Cruise, on l'a connu quoi? On l'a connu en pilote de chasse, en vétéran brisé de la guerre du Vietnam, en joueur de billard américain, en vampire... Alors, Mathilde, d'après vous, est-ce que la notoriété d'un acteur peut nuire à la crédibilité du personnage qu'il interprète? Ou la renforce-t-elle, au contraire? Surtout quand on sait qu'en l'occurrence, le personnage Nathan Al Green est un pseudo, donc comme on l'a dit, pseudo-samouraï fictif.
Ouais, et ben en fait, moi je pense que d'abord, les effets de la notoriété sur la crédibilité d'un rôle dépendent de la sensibilité de chacun. Hein. Ah. Tom Cruise, il y en a qui aiment, d'autres pas. Il y a des films où l'acteur semble retenu pour son physique et sa célébrité. Je pense à Top Gun, où personnellement, je trouve que Tom Cruise est cantonné au rôle de l'aviateur bad boy et sexy de service qui lui donne un jeu plutôt classique. Et il y a Le Dernier Samouraï, où le contexte de controverse donne une patte de jeu nettement plus intéressante et diversifiée. Et ça se voit dans le travail d'interprétation de l'acteur. Et puis, il ne faut pas oublier que dans un milieu où l'image est importante pour faire carrière, la notoriété, c'est à double tranchant. Hein. C'est un moteur, mais c'est aussi un poids pour l'acteur qui doit s'efforcer de maintenir son succès parce que ça le pousse à travailler et à gagner son pain, quoi.
Oui.
Et donc, oui.
On va faire un test, si vous voulez, ici. Qui c'est qui aime Tom Cruise? Levez la main.
Moi, ça dépend des films.
Non, levez la main.
Quoi? Mais on ne peut pas lever la main. Moi, ça dépend des films.
Ceux qui n'aiment pas, levez la main.
Je peux lever un pied, si vous voulez, mais pas une main.
Ah, je suis d'accord avec Anne-Lise. Ça dépend des films. On ne peut pas être dans l'absolu.
C'est ça. Dans Eyes Wide Shut, il est absolument incroyable.
Oui, mais il est admirablement dirigé aussi.
Eh bien oui, mais du coup, on est d'accord que ça dépend, ça dépend des films.
Tout à fait. Ça dépend des réalisateurs aussi.
Ça dépend des réalisateurs. Ça dépend des compositeurs aussi.
Ah bon?
D'ailleurs,
la musique qui accompagne les films.
On ne compte plus les récompenses. D'ailleurs, en parlant de musique, qui a reçu le compositeur Hans Zimmer, n'est-ce pas?
Magnifique musique dans ce film.
Oui, il cumule d'ailleurs notamment 2 Oscars de la meilleure musique de film sur 12 nominations.
Rien que
ça, quand même.
C'est incroyable.
Allez, pour sa musique du Dernier Samouraï, il recevra un Satellite Award en 2003.
pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
91.3, haut de radio, bien entendu.
Alors Mathilde, vous êtes comédienne, telle qu'on l'a dit tout à l'heure dans votre présentation. Et alors, quel est votre rapport au cinéma? Est-ce un média que vous avez envie de privilégier pour votre carrière? Et qui cherchez-vous?
Ah, c'est difficile à dire. Alors, moi, je sais. Alors, bon, moi, je suis sensible à toutes les formes d'art parce que j'aime beaucoup le sens de l'esthétique et les messages que l'on peut faire passer à travers l'art. Donc, je considère que peu importe la forme que ça prend, c'est important. Et entre moi, par exemple, je suis comédienne de théâtre et de cinéma et j'ai beaucoup de mal à choisir entre les deux. Je ne sais pas si je pourrais privilégier l'un ou l'autre parce que c'est très différent. Et je trouve que autant au théâtre, c'est une aventure humaine, le temps de quelques heures sans coupure, le temps que l'on se produit sur scène. Et on incarne vraiment le personnage voilà, sans pause, etc.
Et il y a un côté éphémère.
Et il y a un côté éphémère. Donc, et puis, il y a le côté interactif avec le public aussi. Donc, c'est très convivial. Et d'un autre côté, ce que j'aime beaucoup avec le cinéma, c'est qu'on peut peaufiner le rendu. Et le fait de voir différents champs artistiques qui touchent à la musique, à l'étalonnage, au mixage, etc., le montage aussi, sans parler évidemment bien sûr du tournage en tant que tel, je trouve que moi ce qui me fascine c'est le résultat et aussi quand on est sur le tournage c'est une aventure humaine mais sous une autre forme et on a le droit de recommencer si ça marche pas, enfin voilà.
Il y a le résultat et la manière d'obtenir ce résultat aussi.
Exactement.
On a le droit de recommencer, on a aussi le devoir.
Des fois, le devoir, bien sûr.
C'est la différence avec le théâtre où une fois qu'on est sur scène, le réalisateur, metteur en scène ne peut plus rien.
D'accord. Exact.
Alors qu'au cinéma, ils peuvent vous arrêter, vous faire reprendre.
Couper.
Donc il y a ce double aspect.
On la refait.
On va refaire quoi pour l'émission? Non, on va la continuer.
On va la continuer.
Voilà. Avec le troisième film.
Ah oui.
Hein, de votre sélection d'aujourd'hui, Mathilde.
Oui. Alors, c'est Tu ne tueras point.
Ah.
Oui.
Enfin, ah. Oui, d'accord.
Alors en fait, on est toujours dans un contexte de guerre et de choc entre cultures. C'est un film réalisé par Mel Gibson. Le récit s'ancre dans une histoire vraie, celle d'un objecteur de conscience exceptionnel. Nous sommes en 1945, la guerre entre les États-Unis et le Japon éclate. Desmondos, ici interprété par Andrew Garfield, est un jeune Américain qui veut se rendre utile pour son pays. Et il s'engage comme infirmier dans l'armée. Mais porté par ses valeurs religieuses, il refuse de porter une arme à feu sur le champ de bataille, ce qui lui vaut mépris, méfiance et violence de ses supérieurs et camarades. Leur jugement à son égard va aussitôt changer quand, en haut de la falaise d'Axel Ridge, Desmondos retournera inlassablement chercher les blessés un par un malgré les obus, les grenades et les tirs, et il les descendra de la falaise à l'aide d'une simple corde. Et je trouve que ce film est une jolie perle du cinéma parce que non seulement les histoires de dingue comme celle-là, elles mérite d'être partagé, mais aussi parce que il y a une qualité d'écriture, de jeu, des points d'humour, la beauté de la musique, du mixage et des plans, et le travail d'étalonnage aussi. Enfin, je trouve que l'ensemble est vraiment génial. Et l'interprétation du héros par Andrew Garfield est touchante aussi parce qu'il a su montrer que ce qui paraissait faiblesse et fragilité chez Desmond n'est que force finalement. Au début du film, il attire la sympathie en incarnant un jeune homme plein de fraîcheur, d'innocence, qui aime la vie, avec une forme d'insouciance et de naïveté qui font un peu sourire, et son acharnement auprès de l'armée pour servir à sa manière frôle la limite du ridicule, et en même temps c'est ce qui lui donne ça lui donne cet aspect fragile, délicat, d'âme sensible, mais finalement cette foi profonde en ses valeurs et son amour de tout va lui donner la force admirable d'affronter l'enfer de la bataille d'Okinawa pour sauver des vies. Voilà, donc je trouve que c'est juste très bien interprété.
D'accord. Le personnage de Desmond a existé.
Ah oui, il a vraiment existé. À la fin du film, on voit que c'est marqué qu'il a sauvé 75 vies. C'est un chiffre qui a été officialisé par l'armée américaine. Alors, au début, l'armée américaine, elle a exagéré en disant disant qu'il en avait sauvé plus de 120. Après, plus modestement, elle a officialisé 75, mais le vrai Desmondos, dans une interview, il dit qu'il pense en avoir sauvé un peu plus de 50, mais il n'irait pas jusqu'à 75. Enfin bref, ça n'enlève pas grand-chose à l'exploit.
C'est la capacité d'exagération des Américains.
Oui, certainement.
Le vrai Desmond, qui a toujours refusé qu'on porte son histoire au cinéma, c'est juste vers la fin de sa vie, je crois qu'il a...
Ça, je sais pas. Je pense que... Je sais pas s'il a refusé. J'ai pas vu quelque chose là-dessus, mais...
Ça aurait pas été étonnant par rapport à la psychologie du personnage de se mettre... de pas se mettre en vedette, quoi, en fait.
Bah, je pense que c'est un homme qui avait l'air plutôt discret dans sa vie, enfin...
Oui, alors moi, j'avais une question à vous poser, Mathilde, à propos de ce film. Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, un jeune Américain, s'est retrouvé donc, comme vous le disiez, confronté à un dilemme.
Confronté
à un dilemme.
Oui, c'est ce que vous avez dit.
C'est absolument ce que j'ai dit. Comme n'importe quel de ses compatriotes, il voulait servir son pays, mais la violence était incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il s'opposait ne serait-ce qu'à tenir une arme et refusait d'autant plus de tuer. Alors, si j'ai bien compris le film, il est question d'un choix entre tuer et sauver des vies. Mais il y a là une sorte de vision christique quand même. Est-ce que c'est cette vision qui vous a séduite, ou plutôt l'enchaînement des séquences brutales, violentes, où les corps décharnés sont montrés à l'écran avec un certain plaisir macabre?
Alors, bien sûr, ce qui m'attire dans ce film, c'est la perspective de sauvetage, hein, la foi du héros en ses valeurs et le lien d'humanité qui se tisse entre les personnages. Le plaisir de voir des corps décharnés, je laisse ça aux sadiques. Hein.
Tout de suite.
Que Mel Gibson soit réputé pour exhiber la violence, c'est une chose.
Oui.
Là, il s'agit de représenter une bataille avec des grenades, des obus et des japonais kamikazes, donc difficile de passer à côté de l'horreur. Mais je pense que montrer ces pauvres corps meurtris, c'est important. Pour l'aspect d'abord dramatique du film et pour le côté documentaire aussi, parce que la bataille d'Okinawa a été extrêmement sanglante et aussi parce qu'on suit l'histoire d'un infirmier de guerre et que c'est la dure réalité du métier, hein, de voir des horreurs pareilles. Et ensuite, parce qu'à l'écran, ça renforce l'exploit du héros qui aurait pu tout aussi bien finir en charpie comme ses camarades. Mmh. Hein. Donc voilà.
Mais parce que Mel Gibson, il est quand même habitué à certaines inclinaisons sur le morbide, sur la violence et tout ça.
Oui, il y avait, j'ai entendu parler de La Passion du Christ, dans lequel il y a une scène de flagellation qui dure 10 minutes ou je sais pas quoi. Enfin, apparemment, c'est très violent.
Allez, on va écouter la bande-annonce du film.
Bonne idée.
Qu'est-ce que vous foutez, capitaine ?
Nous attendons, mon colonel.
Et vous attendez quoi ?
Le soldat d'os.
Mais bon sang, c'est qui ce soldat d'os ?
J'ai toujours rêvé d'être médecin, mais j'ai pas assez été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi.
Tu t'imagines que cette guerre va coller avec tes principes ?
Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir.
Voici un petit cadeau du gouvernement des États-Unis. Il a été conçu pour éradiquer l'ennemi.
Désolé, sergent, je touche pas aux armes.
Vous ne tuez pas ?
Non, monsieur.
Vous savez que ça peut arriver de tuer pendant une guerre.
Le soldat d'os ne croit pas à la violence. Ne comptez donc pas sur lui pour vous sauver au combat.
Pour moi, c'est pas une histoire de religion. Je crois que c'est de la lâcheté.
Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais différent des autres. Ils disent que tu risques la prison.
Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois ? Dans ce monde qui fait tout pour se détruire, ça me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux.
Soldat d'os, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille sans aucune arme pour vous protéger.
Voilà, tout est dit, hein, n'est-ce pas ? Alors, on peut dire que Mel Gibson, c'est quand même l'homme des paradoxes. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Oui.
Rappelez-vous qu'en 2024, il a affiché son soutien à Donald Trump, vous voyez qui c'est, pour l'élection présidentielle. Celui-ci, d'ailleurs, l'a nommé ambassadeur spécial du président pour Hollywood, avec pour mission d'être ses yeux et ses oreilles au sein de l'industrie cinématographique.
C'est comme McCarthy, quoi.
Ça fait peur. En 2006, il a été arrêté en état d'ivresse, pas Donald Trump, hein, Mel Gibson, et il a tenu des propos antisémites.
Mm-hmm.
Et en même temps, il s'est opposé à la guerre d'Irak, il a donné des millions de dollars pour financer les traitements médicaux pour les enfants, il a financé la restauration d'œuvres d'art de la Renaissance. Alors Mathilde, est-ce qu'il y a des traces de ce paradoxe dans son cinéma ?
C'est où il est calme ? En fait, alors... Bon, moi, je vais surtout m'appuyer sur Tu me tueras à point, parce que le cinéma de Mel Gibson, en général, j'ai vu quelques-uns de ses films, mais c'était il y a des années, et je les connais pas assez pour donner des scènes suffisamment précises. Et puis même, tout simplement, je suis pas très attirée par son cinéma à la base. Mais par contre, Tu me tueras à point me semble un très bon exemple, parce qu'on trouve des paradoxes moraux chez la plupart des personnages, comme pour le réalisateur, hein, parce qu'il ne fait aucun doute que Mel Gibson est tenté de racheter son image auprès du public après tant de polémiques sur sa personne. Dans le film, on a le père de Desmond Doss, qui est joué par Hugo Weaving. Ce personnage a sombré dans l'alcoolisme parce qu'il a été traumatisé par la Grande Guerre et par la perte de ses amis. Il se montre violent envers sa famille quand il est saoul. Et pourtant, c'est un père de famille aimant qui a peur d'enterrer ses deux fils, qui s'engage dans l'armée tous les deux. Et c'est un père qui aide finalement son fils Desmond à lutter pour ses valeurs. Et puis, il y a aussi les camarades de la division de Desmond qui se montrent hostiles envers lui dans les scènes de bizutage et particulièrement violents. Et puis, finalement, il se montre plutôt sympathique et attachant à la fin. Et voilà. Et puis, même Desmond, on peut se demander si le fait de vouloir s'engager dans l'armée à tout prix, même en tant qu'infirmier pour sauver des vies, finalement, est-ce que ce n'est pas contribuer à la guerre quand même? Bon, après, faut tenir compte que dans le film, c'est une époque où c'est la honte et culpabilisant de rester à l'arrière si on est en capacité de servir. Oui, tout à fait. Mais bon. Voilà, donc en fait, j'ai l'impression que dans ce film, tous les personnages, évidemment, sont imparfaits, hein, comme dans la vraie vie. Voilà. Donc,
c'est très masculiniste, l'armée, de toute façon. C'est la culte, le culte du mec. Hein.
Oui.
Et alors, Patrick, vous voulez nous parler de...
Alors, moi, je voulais vous parler du compositeur de Titanic, figurez-vous.
Oui, c'est lui.
C'est James Horner, qui devait initialement écrire la bande originale du film.
Oui, oui.
Mais malheureusement... Horner a eu une mort de pauvre, il s'est tué dans le crash d'un de ses avions qu'il pilotait.
Oui.
Ah. C'est malheureux. Ce qui oblige Mel Gibson à se tourner vers un autre compositeur, Robert Gregson Williams, qui se vit alors confier la tâche. Et ça donne, entre autres, One Man at a Time. Non, One Man at a Time. Enfin, quelque chose comme ça.
Arrive bientôt à la fin de notre émission. Mathilde, une question d'ordre général.
Oui.
Est-ce que vous vous rappelez le premier film que vous ayez vu?
Le tout premier de ma vie?
Le tout premier de votre vie.
Oh, waouh!
Bambi.
Si on ne prend pas en compte le cinéma d'animation, tu veux dire? Enfin, les films d'animation.
Oui, enfin, tout le premier film.
Ah, wow.
Qui vous est marqué, peut-être aussi. Peut-être vous en avez oublié, certainement.
Oh, c'est une excellente question.
Donc,
j'avoue.
Vous ne répondrez que l'année prochaine.
Si oui, il y a de fortes chances. Ah non, franchement,
mais là, vous êtes, dans votre pratique, vous êtes plutôt salle de cinéma, rediff à la télé, DVD
Ça, c'est plutôt des rediffusions, parce que le cinéma, hélas, maintenant, ça coûte de plus en plus cher. Oui. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais après, selon les films, quand je vois les bandes-annonces, il y a des films où je me dis, ça, c'est à voir sur grand écran. Et ah, pour oui, le coup, là, j'y vais, je suis prête à y mettre le prix pour aller les voir, quoi. Voilà, ouais. Et il y a d'autres films où je me dis, bon, oui, allez, c'est cher, un petit plaisir à la télé.
Il y a quelques décennies de ça, il y avait des ciné-clubs à Bordeaux ouais. où on avait pour une somme très modique, on pouvait avoir 4-5 films. Il y avait notre ami Alain Marty qui a repris de Jean Vigo après, qui s'occupait de ça à l'époque. Ça remonte. Quoi.
Et oui, maintenant, il n'y a plus.
Oui.
C'est vrai qu'Avatar sur un petit écran, franchement,
ouais,
ça sert à rien.
Ça sera un peu frustrant.
Sur un téléphone, c'est pire.
Oui, sur un téléphone, c'est pire.
Mais c'est vrai que, ouais, visuellement, bah, Avatar 2, quand il est sorti, personnellement, j'ai pas. Enfin, le scénario, je l'ai trouvé un peu pénible et très même long, en fait. Mais par contre, visuellement, je me suis dit, ça, il faut aller le voir en IMAX au cinéma pour que ça vaille vraiment le coup. Et c'est vrai que le travail d'image était incroyable. Mmh.
Donc, est-ce que c'est pas un peu dommage, d'ailleurs, du coup, d'avoir que des cinémas comme ça qui soient que visuels ?
Ouais, peut-être.
Alors que.
Ouais.
Quand on voit peut-être du cinéma d'auteur qui n'est pas visuel, mais qui devrait pourtant se voir dans une salle obscure pour la profondeur du cinéma.
Bah après, on arrive quand même maintenant à avoir des films aussi quali visuellement que scénaristiquement parlant. Je pensais à l'adaptation du conte de Monte Cristo qui passait très très bien au cinéma, enfin sur grand écran, ça rendait vraiment très bien.
Ouais.
Donc voilà, on n'a pas que du cinéma visuel, mais c'est vrai que c'est quand même une mode, j'ai l'impression, qui est quand même assez présente. Et c'est un peu
il n'y a
dommage.
Pas de, dans votre sélection, là.
Il n'y a pas de film français.
Pas de film français. J'y ai pensé. Et j'ai pensé à certains films. Je pensais à Mademoiselle de Jonquière.
Avec Edouard Baird.
Ah oui.
Qui c'est qui joue la fille
l'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais
ah si, c'est Anne de France.
Cécile de France.
Cécile de France.
Ouais. Oui, il me semble.
Oui, c'est elle.
Ouais.
Mais oui, je trouve qu'il y a aussi une actrice qui joue dans. C'est une jeune fille qui joue dans Les yeux jaunes des crocodiles. Pareil, je ne sais plus son prénom, mais c'est une jeune fille qui joue très très bien. Elle s'était faite repérer et voilà.
C'est pas Adèle Haenel.
Je ne sais plus son prénom, mais en tout cas, elle est incroyable.
Mais on vous réinvitera, vous choisirez trois films français. Quoi.
Bah, pourquoi pas. Non, en France, on fait du bon cinéma, ça dépend. Je trouve que depuis un certain temps, les films français laissent à désirer, à part Le Comte de Monte Cristo.
Et Daniel Auteuil. Et Daniel Auteuil.
Et Daniel Auteuil, bien sûr. Mais voilà, je trouve quand même que ces dernières décennies, les films français laissent un petit peu à désirer, et à l'exception de quelques films.
Bon, il y a Bertrand Blier qui est quand même pas mal.
Pas que français, je trouve que le cinéma. Le cinéma en général est un peu. Voilà, c'est.
D'accord,
c'est,
vous n'allez pas finir votre phrase alors, c'est ça.
Ouais, ça laisse.
Laissez-moi terminer ma phrase en fait. C'est laisser un peu aller on retrouve plus la qualité qu'il y a pu avoir.
C'est vrai
que tout le monde n'est pas John Ford. Hein. Ouais.
Bah, c'est surtout, je pensais aux comédies principalement, les comédies françaises. Je trouve qu'au cinéma maintenant, ça me fait moins rire, par exemple.
Ouais,
tu vois
c'est un peu toujours la même sauce.
Ouais, c'est vraiment du mal. Quoi. Ouais.
Et oui, et ben, d'ailleurs, tiens, voilà, vous savez quoi ? Ciné-séance, c'est fini.
Ah non,
on vient d'arriver.
Enfin, jusqu'à ce que tout recommence.
Ah bon, d'accord.
Vous allez pouvoir sortir dans la brume et sous la pluie. Prenez le temps éventuellement d'écouter nos podcasts disponibles sur le site internet d'Odeur Radio, mais aussi nous suivre pour une actualité positive sur les réseaux sociaux. Il nous reste à remercier notre invité. Merci beaucoup.
Merci pour vos films et pour votre analyse.
J'ai tout noté.
J'espère que vous avez été noté. De façon très studieuse.
Oui, tout à fait.
La semaine prochaine, nous irons à la rencontre de deux personnalités qui ont marqué l'histoire du cinéma.
Eh bien, figurez-vous que ce sera à 14h sur Odeur Radio 91.3, bien entendu. 14h, 14h05, on n'est pas précis.
Normalement, 14h, sauf si on a des problèmes techniques. En attendant, on se quitte avec la perle musicale du jour, dénichée par Jean-Jacques.
Oui, alors, figurez-vous qu'en 72, avec le groupe des Charlots, nous faisions la connaissance de Paulette.
Paulette.
La reine des...
Paupiètes.
Et ce que l'on sait moins, c'est que sur l'autre face du 45 tours, oui, à l'époque, les disques avaient deux faces, n'est-ce pas ? Mais sur la face B, donc, les paupiètes laissaient la place aux choux farcis. Ah. Respect éternel aux charlots et à leurs chansons culinaires. Allez.
À mardi prochain et en attendant.
Bon vent à tous.
Un matin, je le sais bien, ça va nous arriver. Nous irons main dans la main, tous les deux faire le marché. Nous achèterons du chou, de la farce et des oignons. Et si la chance est avec nous, nous trouverons un beau citron pour faire du chou farci. Du chou farci comme nous deux on l'aime, avec un beau hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Dans notre grande cocotte, sur un lit de lagra, nous grillerons des carottes et des tomates de premier choix. Puis nous mouillerons le chou à mi-hauteur dans du bouillon, et nous ferons cuire à feu doux en surveillant bien la cuisson de notre chou farci. Du chou farci comme à nous deux on l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Déjà je nous imagine tous les deux en tablier, affairés dans la cuisine, maniant salière et poivrier. Quelle émotion, quel bonheur, lorsque nous découvrirons, après un peu moins d'une heure, mijotant au fond du chaudron, notre chou farci. Ce chou farci comme nous deux on l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci.
Du chou farci qu'on aura fait nous-mêmes, avec un bon hachis, du vrai hachis comme nous deux on l'aime.
Et vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci.